se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 à 9.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui dans CO2 Mon Amour, Gilles Gaillard et Yann Bouillot à la technique, et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fabrice L'Aigle qui réalise l'émission. Mais aussi une émission qui prend le temps de ne pas aller vite, ce qui n'est pas le cas des publicités à la télé. Tenez, prenez celle qu'on nous sert en ce moment, c'est Areva, entre la poire et le fromage, car en 60 secondes chrono, on nous refait l'histoire de l'énergie au fil des siècles. Des bateaux à voile aux moteurs à explosion, des voyages à dos de chameau à la civilisation du tout bagnole. Rappelez-vous, c'était les années 60, ça s'appelait le rêve américain. Le dernier gadget à la mode, c'était la grosse voiture rose bonbon pour aller au lycée. Ou bien pour sortir au cinéma avec la plus belle fille de la classe. Mais comme nous l'a dit Barack Obama mardi dernier dans son discours sur l'état de l'Union, tout ça, c'est du passé. Notre épopée de l'énergie en 60 secondes enchaîne donc sur une plongée dans le 21e siècle selon Areva, c'est-à-dire centrale nucléaire en bord de mer et littoral bétonné de grands immeubles. Dansez tranquille, jeunes gens, vous fournit des kilowatts à gogo pour le chauffage, la clim et la sono. Alors évidemment, ce genre de raccourci démolit un peu tous nos efforts que nous déployons dans cette émission pour expliquer, non pas naïvement, mais que l'énergie de l'avenir, c'est aussi celle dont on n'a pas forcément besoin, celle qu'on n'aura pas besoin de produire. Et une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge vient d'ailleurs de calculer que nous pourrions diviser par 4 notre consommation d'énergie sans réduire notre train de vie. Incroyable, oui. Un programme un poil plus ambitieux que l'objectif européen de réduire de 20% notre consommation d'énergie, ce qui est un premier pas. En adoptant par exemple un régime isolant pour les passoires énergétiques qui nous servent de logement, ou bien un régime amincissant pour les blocos ambulants qui nous servent de voiture et qui pourraient volontiers perdre quelques centaines de kilos. Et oui, emporter avec soi moins d'une tonne d'acier, de verre et de plastique pour aller chercher le journal, c'est possible. Vous me direz, avec mon carburant à l'huile de palme, je roule pour le climat. Sauf que pour planter les 10 palmiers, on ratiboise à tour de bras les forêts d'Indonésie. Ce qui a valu à la compagnie Nest Oil de recevoir hier à Davos le Grand Prix du 2010 du public de l'entreprise la plus irresponsable de la planète, devant BP qui partait pourtant favori, qui avait provoqué la plus grande marée noire de l'histoire des États-Unis. Rappelons qu'Areva avait reçu le trophée en 2008 pour la contamination radioactive de l'air, de l'eau et des sols aux environs de ses mines d'uranium au Niger. Alors, pour vous qui souhaitez entrer dans la compétition de la décision la plus irresponsable pour 2011, on a quelques suggestions. Oui. Vous nous faites un copier-coller de l'aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, à 25 km du centre-ville, ce qui vous place le tout hors de portée du tramway et qui vous garantit quelques milliers d'allers-retours quotidiens en voiture pour les passagers, pour les employés, oui. Vous pouvez aussi prolonger le moratoire sur les installations photovoltaïques jusqu'au calende grec pour tuer dans l'œuf cet embryon de croissance verte qui fait du tort à nos très très chers EPR. Vous nous signez aussi quelques dizaines de dérogations supplémentaires afin d'autoriser l'usage de pesticides par ailleurs interdits pour faire face, je cite, à un danger imprévisible qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Et figurez-vous qu'en Europe, on a 6 fois plus de dérogations au cours des 4 dernières années. Et on se demande quels sont les dangers imprévisibles qui frappent soudain nos cultures. Et puis si au contraire vous êtes tenté par un avenir responsable, vous votez pour la taxe poids lourd, la loi littoral, que sais-je, l'isolation des HLM de votre commune ou bien un parc d'éoliennes en mer. Et dans notre publicité pour les énergies sans CO2 du XXe siècle, voyez-vous, on n'aura peut-être même plus besoin de la centrale nucléaire. Voilà. C'est une petite humeur, rien de plus, bien sûr. Alors, dans notre menu, ce que je vous propose, 8 minutes de Jean-Marie Pelt en entrée, c'est pas mal du tout. Il va nous parler de santé, alimentation et cancer. Donc, c'est un sujet bien lourd. Et puis, on va aller dans le département de l'Ariège, rejoindre un amoureux des chevaux et des bœufs.
Je me suis dit que, ma foi, il fallait bien maintenir la tradition parce que ça fait partie des choses qui m'intéressent, la tradition. Et voilà pourquoi la croupe de mes mules est décorée.
L'homme s'appelle Olivier Courtiade. Nous allons prendre un cours d'attelage avec lui. Et enfin, troisième volet de cette émission, une actualité tout à fait éclectique avec Nathalie Fontraine. Nous vous avons cocoté ça. Mais auparavant, grâce à Muriel Pérez, notre programmatrice, bien voici Brigitte. Alors, Stéphane Hessel nous disait « Indignez-vous ». Elle nous dit « Battez-vous ».
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Elle disait « Battez-vous », je crois que c'était un petit peu pour elle quand même. Voilà. Alors, on va poursuivre donc cette émission avec le premier volet. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez. On va passer à table et on va surtout éviter la table d'opération. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alimentation et cancer, donc véritable sujet aujourd'hui. On sait qu'il y a bien sûr les cancers avec des facteurs très identifiés, tels l'alcool, tels le tabac, tels aussi donc l'amiante. Mais que peut-on dire sur alimentation et cancer ?
D'abord, on peut faire un constat qu'il y a chaque année, en France, 320 000 nouveaux cancers recensés.
Alors, la population vieillit, on a de la prévention.
Oui, on détecte plutôt les cancers. Donc, tous ces facteurs jouent ensemble et on arrive à ce chiffre, évidemment, très, très impressionnant. Sans vouloir faire de mauvais esprits, quand on rencontre un tel ou un tel, on me dit « Est-ce que tu sais qu'un tel a le cancer ?» Et puis après, on dit « Est-ce que tu sais qu'une telle, elle a divorcé ?» Alors, les jours où je n'apprends pas un divorce ou un cancer sont rares.
Ah.
Ça fait partie du monde dans lequel nous vivons maintenant, qui fonctionne comme ça.
Alors, vous n'avez pas divorcé, mais vous avez quand même aussi échappé à un cancer, il faut le dire.
C'est ça, tout à fait. Absolument. Alors, on estime qu'on pourrait réduire en gros de 30% le nombre des nouveaux cancers avec une alimentation idoine. Parce que l'alimentation joue un rôle. Alors, il y a ce qu'il faudrait ajouter et ce qu'il faudrait soustraire. D'abord, qu'est-ce qu'il faudrait soustraire? Qu'est-ce qu'il faudrait réduire? Bon, l'alcool, ben, ça, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Le tabac, bien sûr, tout le monde le sait aussi. Mais le sel aussi, parce que souvent, on mange trop salé. Et puis, les viandes rouges et les charcuteries qui doivent être consommées modérément. Pas du McDo tous les jours. Ça, c'est ce qu'il faut réduire. Et puis ensuite, il y a ce qu'il faut, au contraire, augmenter. Alors, ce sont les fruits et légumes. Et on dit qu'il faut consommer, au minimum, 5 fruits et légumes tous les jours.
Alors, ça, c'est même contesté, parfois.
Ça. Alors, c'est ça. Alors, c'est parce que c'est contesté que j'ai regardé de près la question et je suis tombé sur une étude d'un institut du cancer américain qui a fait une synthèse entretenez-vous bien, 7000 publications épidémiologiques, c'est-à-dire 7000 travaux qui ont été menés sur les impacts des aliments, de tel ou tel aliment, sur tel ou tel type de cancer. Et le verdict est tout à fait clair, oui, l'alimentation par les fruits et légumes est importante pour essayer de se protéger au mieux contre le cancer.
Alors, pourquoi?
Oui, pourquoi?
Oligo-éléments, antioxydants, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, il y a dans les fruits et légumes ce qu'on appelle les antioxydants. Là, il faut bien savoir que les aliments laissent des déchets quand ils sont métabolisés par l'organisme. Ces déchets s'appellent les radicaux libres. Ils se fixent dans les cellules. Ils se fixent d'autant plus qu'on est plus âgé et qu'ils ont eu plus de temps de se fixer. Et les cellules, donc, sont en milieu oxydant. Donc elles s'oxydent, on pourrait dire qu'elles rouillent en quelque sorte. Et les fruits et légumes possèdent des substances qui sont anti-radicaux libres, qui neutralisent ces radicaux libres et qui évitent par conséquent le vieillissement. Et donc partant la fragilité de ces cellules et leur aptitude à faire des cancers plus facilement.
Jean-Marie, qu'est-ce que je choisis comme fruits et légumes? Qu'est-ce que je dois manger?
Oui, alors ça c'est déjà plus subtil parce que en fait, les fruits et les légumes contiennent tous trois grandes séries de substances, nutriments, des vitamines, ce qu'on appelle des polyphénols, et puis aussi des caroténoïdes, qui donnent la couleur rouge aux carottes. Alors, les légumes et les fruits en contiennent plus ou moins chacun, et plus ou moins cela plutôt que cela. Donc, on ne peut pas inventer en quelque sorte un menu type qui serait le menu parfait. Parce qu'en plus, les fruits et légumes ne sont pas producteurs des mêmes quantités toute l'année. Si c'est des légumes primeurs, ils contiendront moins de ceci, mais plus de cela, et inversement.
Et ceux qui ont des pesticides, ceux qui n'en ont pas.
Oui, donc il faut un équilibre. Ce qu'il faut, c'est le diversifier. C'est ça l'idée. Alors, il y a quelques faits qui sont précis et qu'on peut peut-être évoquer. Mais je pense par exemple à l'ail. Il semble que l'ail soit protecteur pour les cancers colorectaux. Par ces produits sulfurés, c'est ce qui donne à l'ail son goût particulier, c'est des dérivés du soufre. Et il y a aussi du dérivé du soufre dans toutes les crucifères, notamment dans les choux, et en particulier il y en a beaucoup dans les brocolis, c'est pour ça que les brocolis sont tellement à la mode.
Vous savez, vous nous faites rêver, là. L'ail, les brocolis. Là,
oui, et les tomates aussi.
Ah, oui.
Alors les tomates, elles étaient réputées pour leur lycopène qui leur donne la belle couleur rouge, qui serait un protecteur contre le cancer de la prostate.
Alors, ça a été lycopène,
discuté.
C'est ça ?
Lycopène, oui. D'accord. Ça a été discuté. J'ai du mal à me faire une opinion là-dessus parce qu'on a beaucoup, beaucoup insisté sur ce point. Et je me méfie quand il y a des emballements. Quand tout d'un coup, on dit, alors, tel légume, c'est vraiment ça qu'il faut prendre. Il ne faut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Attention aux emballements et aux emballages.
Oui, les deux. Et puis maintenant, on insiste aussi beaucoup sur les fruits à coque, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les pistaches, qui seraient aussi protecteurs parce qu'ils contiennent des acides gras qui sont polyinsaturés, surtout c'est, de la vitamine
ça
E.
Ça vous le dit depuis longtemps, en ce qui concerne les noix, qui est quand même assez prodigieux.
Alors, il faut savoir aussi que ces effets protecteurs ne se manifestent pas seulement contre le cancer, mais aussi contre les maladies cardiovasculaires, les maladies de la circulation. Donc, c'est une protection qu'on pourrait appeler un peu généralisée, en quelque sorte. Donc, ne nous emballons pas sur tel fruit, tel légume, dont tout d'un coup, dans la revue Intel, que je ne citerai pas parce qu'il y en a d'innombrables, on dit « Ah ben voilà, c'est réglé, c'est ça le problème, il faut manger plus que ça ». Alors, tout un tas de braves gens se précipitent au magasin pour acheter ce légume-là ou pour acheter ce produit-là. Ça ne marche pas comme ça.
Ne soyons pas binaires.
Ne soyons pas binaires, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment diversifier au maximum, mais la conclusion de ce que j'ai regardé de près, j'ai pris plusieurs bouquins, j'ai regardé ça de près, la conclusion c'est que oui, les fruits et légumes sont conseillés contre les maladies cardiovasculaires et contre le cancer, et alors pour les fruits, ben, si les légumes, si on les prend bio, c'est plutôt mieux, parce qu'on n'aura pas les pesticides en plus. Voilà ce qu'on peut dire.
Jean-Marie, rappelez-nous d'où vient ce chiffre de 30% quand vous dites qu'une alimentation donc correcte permettrait de réduire les cancers de 30%.
C'est une opinion partagée par les grands instituts actuellement. Il faut savoir, parce que les Français ne le savent pas, que le plus grand institut anti-cancer est à Lyon, qu'il fait partie de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est aussi cet institut qui fait des études sur les effets éventuellement néfastes du téléphone portable, dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a un impact pour un cancer du cerveau potentiel ou pas? On ne sait pas, ce n'est pas clair encore, c'est trop tôt pour le savoir. Mais les grands instituts, disons, sont quand même d'accord pour dire ça. Alors, il ne faut pas que nous concluions sans dire ceci. Si un cancer se manifeste, bien entendu, c'est pas avec les fruits et les légumes qu'on va le guérir. Il n'y a pas non plus une plante miracle qui le guérit.
Et puis souvent c'est multifactoriel.
Et souvent c'est multifactoriel. Il faut passer par les thérapeutiques classiques qui sont la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la radiothérapie, la chirurgie quand c'est nécessaire, etc. Donc il faut aussi faire très attention dans ce domaine aux emballements qui ne sont pas de mise. On peut ajouter un traitement naturel de l'homéopathie, des plantes qui augmentent l'immunité et qui favorisent le renforcement des défenses de l'organisme, mais il faut passer par la grande médecine officielle pour se soigner du cancer. Mais je dis ça, c'est très important parce que je suis continuellement harcelé par des mails où on me dit « Est-ce que M. Pell, vous connaîtrez la plante ?» Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas la plante qui. Il y a qu'on peut utiliser des plantes en plus d'un traitement.
Merci beaucoup Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et puis petite précision, mais vous le saviez, c'est que manger des fruits et des légumes, ça ne protège pas du tout du divorce. Vous pouvez essayer, mais ça fonctionne pas. Voilà, dans quelques instants, je vais vous emmener dans un très beau département qui est celui de l'Ariège. Donc nous allons être dans les Pyrénées centrales, à la découverte d'un homme avec ses bœufs, ses mulets et ses chevaux. Allez, musique. You didn't know what to say. I'll come at you today. Get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. I'm hiding out in the sun. I'm getting everyone down. Just minute now on. Here I come, here I come, here I come. Just call me the runner. I'll squeeze the phone. C'était Billy Ray sur France Inter, The Roller. Eh ben nous, on va aussi avancer, mais ça va pas être exactement avec le même pas. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis on va faire venir le printemps avant l'heure, parce que j'avais tourné ce reportage au mois de mai. On va partir à cheval et en bœuf dans le département de l'Ariège, pas l'Ardèche, hein, bien l'Ariège.
Ben, le bâton, chez nous, c'est tout un symbole. C'est d'abord un soutien, bien sûr.
Ouais.
Alors déjà, les Parisiens, les bâtons, ils ne tiennent le petit bout en bas. Parce que quand ils vont en vacances à Megève, ils y mettent une pointe, ils achètent ça fort cher.
Ouais.
Mais ils le tiennent à l'envers. Un bâton, ça se tient comme un arbre, le gros bout en bas.
D'accord.
Parce que là, c'est équilibré, c'est vers le ciel.
Ok. Alors là, il y a tous les licols, il y a... Les étriers, la céleri.
Il y a ici un très grand nombre de colliers et de harnachements parce que c'est une école de dressage. Par conséquent, on a toutes les pointures. On a des petits, des moyens, des gros, des grands, ouais. Des maigres. C'est excessif pour une ferme qui ne travaillerait qu'avec ses animaux. Mais ici, je rappelle que c'est une école de dressage. Donc, il passe beaucoup de gabarits différents, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pointures différentes.
Et oui.
Et donc, on va partir dans ce très très beau département qui est celui donc de l'Ariège, dont on parle très très peu. L'Ariège, c'est cette rivière aurifère qui a donné le nom donc à cette entité administrative, 125 000 habitants à peu près aujourd'hui. Donc, on est au cœur des Pyrénées centrales, donc adossé, vous voyez, Andorre, la Cerdagne et l'Espagne qui sont pratiquement sur le palier d'en face. Et nous sommes dans une écurie pour débuter, avec la rencontre d'un beau personnage solide, un peu ermite, le cuir tanné mais sensible, Olivier Courtiade. Alors l'homme est né en fait en ville, il est né du côté de Saint-Cernin à Toulouse, il a toujours entendu le pas du cheval parce qu'il était face à Maréchal Ferrand, et aujourd'hui dans sa ferme de Méras, nous sommes à côté de Nescus, de la bastide de Céroux, bien, il a créé l'école des mulets, donc des bœufs, des chevaux, de traits, et donc il enseigne l'attelage, la conduite de ces animaux. Donc l'homme, je l'ai dit, bon caractère, un peu comme il est trempé comme la météo locale, qui est un peu irlandaise quand même. C'était donc au printemps, j'avais pris rendez-vous entre deux cols à vélo, mais là j'ai changé de monture. Il se trouve que le bœuf se dirige un petit peu moins facilement, ça discute plus qu'un pédalier ou qu'un guidon, si vous voulez. Alors on est dans la fin du Plantorel, dans la haute vallée de la Rize, dans le centre du département. Et alors Olivier Courtiade, pourquoi est-on en fait dans ce qu'on pourrait dire une zone diplomatique?
Tout simplement parce qu'elle est située entre l'Ariège gasconne et l'Ariège languedocienne.
Autrement dit, le pays de Foix et le pays de Couseran.
Voilà. Oui. Et aussi entre deux pays, les pays catholiques et les pays protestants. Parce que la grande distraction, il y a trois siècles, c'était...
Ah bah de s'égorger quand même un
voilà,
peu.
Voilà, de
oui,
s'égorger
le feu.
Parce qu'on avait la même Bible, mais on ne la lisait pas pareil.
Et c'est ça.
Alors là, on va... Ben, vider le pot de chambre, comme j'ai l'habitude de dire, ouais. C'est-à-dire atteler les bœufs pour vider le
fumier
de la journée.
Ouais, c'est ça. Et qui va servir donc après, bien sûr. Enfin, il est...
Alors ici, c'est une région extrêmement pentue et extrêmement pluvieuse. Donc l'essentiel de la culture, c'est l'herbe et l'élevage. Donc le fumier est quasiment uniquement réservé à fumer les prairies pour qu'on ait un fourrage abondant l'année prochaine.
Je ne sais pas combien vous avez de chiens, Olivier.
J'en ai jamais assez.
Ah bon.
Si je me laissais aller, il y en aurait beaucoup plus. J'ai une affection particulière pour les ratiers. En fait, les ratiers, c'est des chiens de la ville. Hein. C'est les chiens des bignoles, c'est-à-dire des concierges parisiennes qui avaient affaire aux rats puisqu'elles sortaient les poubelles. Et ces chiens-là n'ont jamais, ou en tout cas pas très longtemps, fait l'objet des sélectionneurs de chiens, de telle sorte qu'ils ne sont pas au lof. Mais il y a un monsieur qui s'appelait Jack Russell, un religieux anglais, qui lui a utilisé abondamment, sans rien dire à personne, le petit coquin, mais il n'était pas papiste, c'est pour ça, qui a utilisé les ratiers français et les fox pour créer le fameux chien Jack Russell, qui est aujourd'hui la coqueluche des gens du concours hippique.
Et là, on a
là
donc...
vous voyez un spectacle absolument superbe.
Une
c'est-à-dire
paire de bœufs, c'est ça
Une jeune et pure jeune fille en train de sortir deux monstrueux, énormes bœufs castas avec des cornes en lyre évasées et cette robe châtaigne. Leur nom, casta en occitan, ça veut dire châtaigne. Et ces deux bœufs, ils ont une histoire très particulière. Je les avais achetés veaux, je les ai dressés, je les ai vendus à Madame Hardy, qui, associée avec Monsieur Debut de Roseville, a fait tous les délices de tous les films de KPDP, puisqu'elle a une entreprise avec ses fils de cinéma.
D'accord.
Et donc, ils ont fait leur carrière tout près de Rambouillet, à Émancé.
Oui.
La conjoncture étant ce qu'elle est, Madame Hardy un jour m'a dit « Reprends tes bœufs parce que nous, on n'en a plus l'usage. L'essentiel des tournages maintenant se passe en Roumanie ou en Tchéquie. »
Et donc, ce sont eux qui vont amener donc, le fumier un peu plus bas.
Et ils vont aider à faire que la maison soit propre.
Alors, c'est pas les sunlight, mais c'est quand même la lumière de l'Ariège. Ce qui est quand même pas mal aussi. Hein,
oui. Il ne faut pas oublier que dans l'Ariège, qui est un pays particulier, grosso modo c'est un triangle dont le sommet serait le sud de la région de la plaine de Toulouse, et la base serait les Pyrénées. Dans ce triangle, l'Ariège qui le partage grosso modo à la louche au milieu, la partie droite est languedocienne et la partie gauche, c'est-à-dire est, est gasconne. Donc on a tout en double exemplaire, c'est-à-dire qu'il y a deux races de brebis, les brebis tarasconnaises et les brebis castillonnaise. On a deux races de chevaux, les chevaux de Mérens et les chevaux de Castillon.
Exactement Castillon, c'est une même commune qui est sur le col de la Corse, c'est ça?
Pas loin. C'est les trois baies, la vallée de Bellelongue, la vallée de
Bethmale
et la vallée du Biros. La capitale est Castillon en Couserans.
Alors là, justement, on a une commune pas très loin de Mérens, là où nous sommes, chez vous. Montagagne.
Alors ça, c'est un beau pays, c'est un isola, c'est une espèce de haut plateau. On me disait jadis qu'une brouette de terre de Montagagne pouvait fumer un hectare de la plaine. C'est dire que la terre est riche là-haut.
Ah oui.
Et il y a un habitat très particulier. Toutes les fermes sont isolées. La mairie est d'un côté, l'église de l'autre. Mais c'était un pays où on était moins malheureux qu'ailleurs, à l'époque de la surpopulation dans le département de l'Ariège.
Ah, attendez, on va se pousser parce que là, il y a à la fois les bœufs. Ah oui, tout de suite, ça, ils avancent plus vite hein, quand vous vous en occupez.
Oui, ils connaissent ma voix par cœur, bien sûr.
Et là, vous leur avez dit
Je leur ai dit de se manier les fesses parce qu'on a une voiture derrière et qu'il ne faut pas gêner la circulation.
Donc, ils ont compris tout ça.
La route appartient à tout le monde.
D'accord, oui.
Negri,
Alors évidemment, aux bœufs, je leur parle, j'allais dire leur langue, c'est un peu ridicule.
Non, mais vous parlez bœufs.
Je parle la mienne, c'est-à-dire l'occitan. La langue des troubadours, celle des troublamours.
Eh oui.
Là, c'est on est sur un quai. Les bœufs qui sont en train de boire alors qu'ils sont chargés,
ouais,
dans un guet qui est en V, en cuvette, donc ils ont toute la charge du fumier qu'ils tirent. Mais ils veulent à tout prix boire dans le ruisseau, parce que ce sont des animaux primitifs qui n'ont pas été déformés par la sélection humaine, et pour eux, l'eau, c'est quelque chose d'absolument sacré. Et plus les races sont primitives, et plus elles sont sensibles à l'eau.
Vous connaissez l'expression « être au cul des vaches », ben là, on est au cul des bœufs, toujours avec Olivier Courtiade. On vient de franchir ce petit guet. On est accompagné par les chiens ratiers. Et puis, celui-là, il est
à bas rouge.
Alors, chevaux de trait, enfin, animaux de trait, ça a de l'avenir, ça, aujourd'hui? Ça a même du présent, d'ailleurs, quoi vous dire, parce que la preuve.
Bon. Ma mère, elle disait, il ne faut pas suivre la mode, il faut la précéder.
Oui.
Quand on suit, on est toujours en retard. L'attraction animale, elle a été synonyme d'archaïsme pendant un certain nombre d'années, grosso modo depuis les années 60. Mais je remarque quand même qu'à l'époque où on travaillait avec des animaux, on chantait encore dans les champs et on n'était pas l'esclave des banques, même si on était métayé pour le compte de Monsieur Deux quelque chose. Aujourd'hui, la joie de vivre, elle se perd un petit peu. Et si j'avais à rembourser des emprunts comme le font un certain nombre de mes voisins, il y a longtemps que je serais pendu à la plus haute poutre, parce que pour moi c'est une situation intolérable. Alors je ne suis pas un passéiste invétéré, on a beaucoup souffert autrefois avec des travaux surtout extrêmement pénibles, et que tout ça évidemment il faut l'améliorer. Mais je pense que les gens qui ont des animaux pour tirer et pour cultiver leur terre, ils possèdent encore cette vertu qu'on appelle le bon sens, qui était une vertu cardinale dans le monde des paysans. Les paysans, c'est-à-dire les gens qui défendent leur pays. Ouais. Aujourd'hui, les paysans ont été remplacés par des exploitants agricoles. Ouais. Exploiter, ça veut dire baiser la gueule à. Si vous baisez la gueule à la terre, elle vous le rend bien. Et je crois que c'est un jeu de dupes. Tu fais une faute, cocotte, jamais vers la maison. Tu aurais dû les arrêter là et décharger là. C'est pas grave, tu es devant, je vais le faire.
Parce qu'en fait, là, pour faire très simple, vous êtes en train de passer votre permis de bœuf, quoi.
Permis d'attelage en tout genre.
Voilà, attelage en tout genre, oui.
Enfin, en tout genre, en mule, chevaux et bœufs.
Ok. Donc ça veut dire poser le joug, s'occuper des bêtes, savoir les diriger, anticiper.
Oui, voilà.
Ouais. Et on se recule parce que là, en fait, les bestioles sont en train de jouer les tondeuses à gazon. Là, j'ai une main qui est posée sur la corne. Alors, c'est difficile de se faire comprendre le dialogue, comment ça se passe avec ces bêtes?
Ouais, c'est difficile, oui, c'est sûr. Ils parlent animaux et puis moi, humain. Alors, il faut trouver un bon...
Oui.
Faut trouver un compromis. Puis ils ont envie de faire ce qu'ils veulent aussi.
C'est ça.
Comme brouter. Oui. Non! Allez!
Oui, c'est un métier, hein. Il n'y a pas de...
Oui, ben,
un savoir-faire. C'est...
Tout s'apprend.
Oui.
Mais rien ne s'invente, c'est-à-dire que l'aptitude, elle est innée. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas.
Une certaine grâce, on va dire. Allez. Alors, juste quelques cours de bœufs, enfin, en bœufs français ou bœufs occitans.
Ah ben, les bœufs, la première chose qui me vient à l'idée, c'est le rythme. Il ne s'agit pas de les bousculer. Ils sont capables de faire très longtemps des choses absolument fabuleuses si on leur permet de le faire à leur rythme.
Donc c'est des fonciers, il ne faut pas les mettre en sur-régime, quoi.
Tout à fait. C'est des diesels et il ne faut pas les utiliser comme des moteurs à essence.
D'accord.
Ils ne sont pas faits pour aller vite, par contre ils sont faits pour aller longtemps avec une aptitude absolument fabuleuse à connaître le gabarit de ce qu'ils tirent.
Ha ha ! Allez ! Avalin ! Ha ha ! Avalin !
Là, vous faites conduite accompagnée, là, hein, c'est un peu ça.
Oui.
Ouais. Alors justement, cette eau, elle a façonné le paysage, les hommes, les forêts environnantes, enfin tout, quoi.
Oui, c'est un pays vert, un peu comparable à l'Irlande. Ici, en temps normal, entre la neige et la pluie, grosso modo, on a un jour sur deux d'humidité, on va dire.
Ouais.
Moi, ça me va bien, je suis de ce tempérament-là et de ce pays-là. Je suis très heureux quand il pleut. Bon, dans cette belle prairie, on voit deux paires de bœufs qui sont la relève des vieux.
Ouais.
Une paire de magnifiques bœufs béarnais, c'est eux qui sont sur l'écusson de la maison de foie Béarn. Et je les dresse pour le compte du parc des Landes, un de l'écomusée de Marquès, sur la commune de Sabre, à qui j'ai déjà vendu une paire de bœufs béarnais, mais qui sont maintenant hors d'âge et qu'il faut remplacer. Et les petits gris, c'est des bœufs mérandais qui vont remplacer les castas quand ils seront vendus. Alors là, on va accomplir une besogne un peu rude, c'est-à-dire enlever le cadavre d'une petite mule. Donc c'est une rude besogne, mais qui rappelle toute la difficulté du métier d'éleveur et d'agriculteur, à savoir qu'on est perpétuellement confronté à la vie et à la mort. Mais la mort, c'est notre contrat, c'est notre lot à tous, et je crois qu'il faut arrêter d'en avoir peur. Et pour ne pas en avoir peur, ben, il faut en manger un petit bout tous les jours. Et de cette façon-là, ben, quand elle arrive, on la regarde avec sérénité.
Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas ce que dire, qu'on se croirait face à un moulin à prière. Qu'est-ce que
oui,
c'est?
Ça y ressemble beaucoup, en effet. pour ceux qui connaissent le Tibet, ils ne seront pas surpris. Ben, c'est un peu le même rôle, il s'agit d'éloigner les mauvais esprits. Alors c'est pour la future mule de l'année prochaine. En fait, ça s'appelle un superjoug ou un surjouet. C'est ce qu'on mettait dans certains petits pays de l'Occitanie sur le joug des bœufs, les jours de fête, pour faire savoir qu'on est là.
D'accord.
Donc il y avait surenchère sur le nombre de cloches, sur la décoration du superjoug. Et pour porter bonheur, j'ai essayé de perpétuer cette tradition que je le fais porter les jours de fête à mes bœufs.
Donc on plante ça sur le joug, hein.
Voilà, sur la cheville centrale.
La cheville centrale.
Et comme l'extrémité du superjoug est tronconique, avec le pas des bœufs, ben, ça fait sonner les cloches.
Voilà, donc balade avec Olivier Courtiade et puis ses bœufs. J'ai essayé de passer mon permis de bœuf, j'y suis pas exactement complètement arrivé, donc faut revenir à la ferme de Méras, hein, voir Olivier Courtiade. Vous avez ses coordonnées sur le site de CO2 Mon Amour, donc dans ce très beau département de l'Ariège. Merci à Jean-Philippe Jeanne qui était à la technique lorsqu'il a mixé ce reportage, mais la réalisation c'était bien sûr Fabrice Lègle qui a eu toutes les idées comme ça musicales autour de ce reportage. Troisième volet dans quelques instants de CO2 Mon Amour, ce sera avec Nathalie Fontrelle. Et ça doit s'appeler franchement une actualité de l'environnement.
Si tu te fiches de la nature et que tu veux continuer à consommer sans réfléchir tout ce que la pub veut te faire avaler, mais vas-y, on croit en toi et en l'avenir. CO2 Mon Amour, oh Denis Chessou, mais calmez-les.
Até as pontas dos pés, na esperança de um melhor. Is sweet, make you want to move, you dance and feel to the rescue.
même si on n'a pas appris le brésilien, c'est un régal ça. Hein. C'était Bebel Gilberto, Sun is a Shining. Ah bah écoutez, elle est là, elle fait attention avec son café de pastaché. C'est parti.
Les oiseaux dans la charmille.
Oui, c'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement. Oui, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Mais non, on va quand même les garder. Mais oui. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Bonsoir la sport. Bah voilà. Donc on est descendu de cheval, mais je sais qu'on va y remonter dans l'actualité. Oh, hein.
Oui, bientôt.
Ça vous a plu, l'Ariège?
Ouais, c'est bien. Magnifique.
C'était bien. On va regarder le ciel. Ville et village étoilé. Ça, c'est un label décerné par l'Association pour la protection du ciel qui a primé 64 communes cette année.
Oui, vous savez que les zones urbaines sont éclairées la nuit par des lampadaires souvent énergivores et surtout qui éclairent autant le ciel que les trottoirs et les rues.
Et donc on ne voit plus les étoiles.
Et non, le label Village étoilé prime donc les communes qui ont fait des efforts pour réduire l'intensité lumineuse, soit en changeant de matériel, mais ça coûte cher, soit plus simple, en éteignant les lampadaires de 23h à 6h du matin. C'est le cas, par exemple, à Aviron dans l'Eure. Christophe Quetel est le vice-président de l'Association pour la protection du ciel.
Ça a un impact direct sur la faune, la flore, sur la santé humaine aussi. Et l'alternance jour et nuit est absolument nécessaire pour le fonctionnement normal de tout ce qui vit sur Terre. Supprimer cette alternance a forcément un impact sur le développement des êtres vivants, que ce soit la faune ou la flore. Donc l'idée, c'est de recréer cette alternance dans les milieux ultra-urbanisés où ça a complètement disparu.
Le lampadaire qu'on voit là, en quoi il est nuisible ?
Alors en fait, selon le type de lanterne utilisée, la lanterne étant la partie haute du lampadaire où se cache la lampe, certaines lanternes vont diriger le flux lumineux uniquement sur la surface utile, d'autres, parce qu'elles sont mal fichues, créent des reflets et renvoient une bonne partie de cette puissance utile vers le ciel ou à l'horizontale, c'est-à-dire à l'endroit où on n'en a absolument pas besoin.
On peut faire combien d'économies d'énergie si vraiment on éteint le plus longtemps possible ?
Alors en fait, en milieu rural, on peut aller jusqu'à 55-60% d'économie d'énergie. Et en changeant son matériel, en mettant du matériel avec un rendement bien meilleur, on peut baisser les puissances, donc économiser encore au moins 30% supplémentaires sur la conso.
C'est beau une ville la nuit.
Ah bah, exactement. Bah, vous imaginez, moi je suis un grand-duc, je suis dans ma falaise. Et puis le maire décide d'éclairer la falaise. Il transforme mon nid en boîte de nuit, ça ne va pas du tout. Mais oui, et après je stresse. Ah là là. Alors sans compter qu'en plus, en question économie, vous l'avez très très bien dit, mais c'est à peu près 40% l'éclairage public, si on fait une moyenne, des frais d'électricité d'une commune. Donc c'est vraiment pas neutre. Alors maintenant, un petit coup de gueule. Mais vous allez voir, ça, on rejoint ça avec l'électricité. L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques vient de rendre son rapport sur la gestion des déchets radioactifs.
Et il n'est pas content du tout du comportement des producteurs de déchets qui doivent financer la recherche et le stockage des déchets radioactifs.
C'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur.
EDF, Areva, le CEA doivent provisionner des sommes pour financer la gestion de ces déchets. Mais là, en ce moment, ils commencent un peu à renacler parce qu'ils se rendent compte que tout ça va coûter beaucoup plus cher qu'on ne le pensait.
On sent que ça tire. C'est le cas notamment pour le stockage, donc géologique profond.
Celui qui est étudié dans le laboratoire de Bure dans la Meuse, vous savez que la loi a introduit une obligation, c'est la réversibilité du stockage. C'est-à-dire qu'il s'agit de se laisser la possibilité de reprendre ces déchets dans les années à venir, au cas où la science ait fait des progrès, au cas où on trouve une autre solution pour les gérer plus proprement.
Mais évidemment, la réversibilité, ça coûte cher.
Écoutez le rapporteur Christian Bataille.
La réversibilité suppose des cavités beaucoup plus grandes, un espacement entre les fûts de déchets et un coût au mètre carré peut-être double ou triple. Donc la loi qui implique la réversibilité coûte cher en matière de stockage, mais nous pensons que cette condition est incontournable.
Et ça, c'est pas ce que pensent les producteurs de déchets.
Alors, les producteurs de déchets veulent maintenant faire des économies. Ils m'avaient dit en 93, la politique de gestion des déchets nucléaires n'a pas de prix. C'est ce que m'avait dit EDF, ce que m'avait dit Areva. Aujourd'hui, qu'ils sont au pied du mur et que finalement l'opinion accepte le fait nucléaire, ils voudraient revenir sur la dépense et réduire les coûts. En somme, il y a une forme de cupidité dans le comportement de EDF. Et nous pensons qu'il faut maintenir le cap, comme la loi de 91 et la loi de 2006 l'ont fixé.
Et oui, on vous doit plus que la lumière, mais on vous doit aussi donc, cette fameuse gestion des déchets. Il a employé le mot de cupidité. Hein.
Cupidité, c'est... il va fort quand même. Hein.
C'est pas mal ça. Tenez, petite parenthèse, mais sur le même sujet, Michel Marie, qui est le président du CEDRAC, cette association qui lutte quand même pour la transparence sur les déchets nucléaires dans ce coin de Bure, a appelé le lieu le Buristan. Voilà, c'est ça. Alors, on entend des oiseaux, voilà. Ils sont tombés comme les mouches à la fin de l'année. Vous en avez beaucoup entendu parler, ces oiseaux morts, donc ont maquillé le sol aux États-Unis ou bien encore en Suède.
Oui, probablement victimes d'une onde sonore qui les a mis KO en plein vol. L'onde, c'était un feu d'artifice. Oui. Alors, évidemment, c'est spectaculaire parce que les hommes en ont été témoins. Mais le plus souvent, les oiseaux se cachent pour mourir. Mmh. Écoutez Frédéric Giguet, il est ornithologue au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Les ornithologues l'observent parfois de manière ponctuelle, mais on imagine que ça se produit relativement souvent, que ça fait partie des phénomènes de sélection naturelle lors des migrations d'oiseaux. Par exemple, on sait que des milliers, des millions d'hirondelles traversent le désert du Sahara pour aller hiverner au sud de l'Afrique, où elles vont trouver des insectes en hiver. Et si, lors de cette traversée, elles se retrouvent prises dans des vents de sable très violents, elles doivent se poser. Et si ces vents durent trop longtemps, elles vont mourir de soif, elles vont se dessécher sur place. Et on a déjà retrouvé comme ça, en plein désert, des centaines d'hirondelles mortes au même endroit. Ça s'explique par des phénomènes météorologiques, on va dire, naturels. Lors de grandes tempêtes sur l'Atlantique Nord, on observe régulièrement des oiseaux marins, des pétrels, des goélands qui sont projetés à l'intérieur des terres, jusque sur les grands lacs continentaux, même en Europe centrale. Le lac Léman accueille régulièrement des pétrels déplacés par de tels vents violents. On a aussi, chaque automne, des oiseaux nord-américains qui nichent par exemple au Canada et qui vont hiverner au Costa Rica ou au Mexique et qui vont être pris par des grandes dépressions, des ouragans tropicaux qui vont traverser l'Atlantique et qui vont être déportés jusqu'en Europe.
Et en Arkansas, Nathalie, 5000 oiseaux sont morts, donc ça a fait pleurer toute la planète. Hein.
Oui, moi je voudrais vous parler d'une mortalité qui n'émeut pas grand monde, il faut le dire. Hein. À la fin des années 80, l'Office national de la chasse a publié une étude sur les victimes à plumes. Je suis désolée, mais depuis nous n'avons pas d'autres chiffres. Et à l'époque, eh bien, plus d'un million de bécasses étaient tombées par terre, 3 millions de canards colverts. Ça, on n'en parle pas.
D'accord. Allez, autre sujet.
C'est une catastrophe. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah, je vous en prie, ne vous aimez pas à marcher dessus.
Et ben voilà, Nathalie, 2011 a enterré donc la prime à la casse et le bonus pour l'achat d'un véhicule moins polluant ben n'en finit pas de fondre.
Et oui, le gouvernement annonce de nouvelles règles encore pour 2012. Le premier bonus sera attribué aux voitures émettant moins de 105 grammes de CO2 au kilomètre parcouru. Et le malus viendra frapper plus vite et plus fort les voitures les plus sales.
Mais alors attendez, Madame Fontrelle, est-ce que ça coûte cher ce système? Est-ce que ça va toucher mon Airbus, moi, par exemple, Mademoiselle
Non, monsieur le Président, je ne pense pas.
Bon,
alors ça coûte cher parce que le gouvernement, donc vous, monsieur le Président, vous n'avez pas voulu que ce système soit équilibré.
Ah bon ?
Vous n'avez pas voulu que le malus pesant sur les voitures sales finance le bonus sur les voitures propres, comme ce devait être le cas au départ.
Mais il fallait continuer à vendre des voitures gourmandes. Hein. C'est sur les gros modèles que les constructeurs gagnent de l'argent.
Oui, alors finalement, on va revenir à un système un peu plus vertueux. Pierre Radan est expert en politique énergétique et c'est aussi le papa, tout de même, rappelons-nous, du bonus-malus.
Le dispositif initial, tel qu'il avait été pensé, c'était un système neutre fiscalement. Il faut revenir au calage initial. Bien évidemment, il faut le faire évoluer dans le temps. Plus on va améliorer la qualité des véhicules, plus il va falloir abaisser le seuil de la prime. Et puis, les véhicules qui sont, excessifs au niveau de leur performance, eh bien cela, il est normal que progressivement on alourdisse la taxe. Il n'est pas normal dans notre pays qu'on vende des voitures dont la vitesse de pointe est le double de la vitesse autorisée. C'est un gâchis innommable. Dans un siècle où on va avoir une confrontation extrêmement dure sur les ressources énergétiques et où cette question de changement climatique va être une contrainte extrêmement forte, il faut essayer le plus possible de garder des bonnes conditions de vie pour les gens en supprimant des gaspillages honteux. Le gaspillage au XXIe siècle, il faut bien comprendre que c'est complètement antisocial.
Voilà. Et Pierre Adane, bah évidemment, on s'était régalé avec lui lorsqu'il était interrogé par des étudiants dans cette même émission. Ah, on entend de la mer. Pourquoi ? Parce que mardi prochain, c'est la journée mondiale, non pas de la mer, mais des zones humides et les 40 ans de la convention Ramsar.
Oui, cette convention internationale a été adoptée par 160 pays. Elle est destinée à protéger les zones humides. Près de 187 millions d'hectares bénéficient de ce statut aujourd'hui dans le monde. Mmh. Ça n'empêche pas qu'elle soit grignotée. Hein. Oui. Vous savez qu'en France, elle ne représente que 3% du territoire.
Pas plus, 3% du territoire.
3%.
Alors la moitié des espèces d'oiseaux dépendent des zones humides.
Et elles abritent 30% des espèces végétales remarquables. Et puis surtout, ce sont d'extraordinaires outils de gestion de l'eau. J'ai rencontré Jean Day sur les rives de la Seine, sur le site de la prairie Maléco en Seine-et-Marne.
En fait, vous aviez surtout rendez-vous avec les chevaux de Camargue, c'était ça ?
Oui.
On vous connaît, bah oui.
C'est vrai qu'ils sont utilisés pour...
Voilà, oui.
C'est vrai qu'ils sont utilisés pour entretenir la prairie, mais bon, celui qui parle le mieux de cette zone humide, c'est le président de la Maison de l'Environnement, Jean Day.
C'est une zone qui absorbe de l'eau en période d'eau de zoo. Donc qui quelque part contribue à la régulation et à l'écrêtement des inondations, donc prévention d'inondations, comme une espèce d'éponge géante. Une fois que ces zones sont gonflées d'eau, elles la retiennent. Et quand les niveaux des fleuves baissent, elles relarguent cette eau-là progressivement, c'est-à-dire qu'elles contribuent également au maintien des débits d'étiage. Alors ça empêche les inondations l'hiver et ça empêche les assèques l'été. Donc quand même, c'est extrêmement important sur le régime des débits des cours d'eau. Et deuxième chose, finalement, comme cette eau stagne longuement dans la zone humide, ça lui donne d'autant plus de chances de s'infiltrer pour alimenter les nappes. Et Dieu sait que nous avons des problèmes d'alimentation en eau en Seine-et-Marne, vu que les nappes principales ont du mal à se recharger en eau. Et sachez que 50% de Haute-Paris vient de Seine-et-Marne. Donc il y a aussi un enjeu, pas seulement pour nous, mais aussi pour la grande agglomération dont nous sommes solidaires.
Alors dès ce week-end, vous pouvez visiter des sites un peu partout en France. Renseignez-vous sur internet, zone au pluriel, -humide au pluriel, .eaufrance.fr.
On va vous mettre ça sur le site de CO2 Mon Amour. On les entend, ce sont des abeilles. Pourquoi ? On termine avec de drôles de méthodes, Nathalie, celle du ministère de l'Agriculture, grand écologiste, qui autorise des pesticides soupçonné d'être nocif pour les abeilles, et ceci pour un an.
Oui, il s'agit du Cruiser. L'affaire a été portée devant le Conseil d'État par les apiculteurs. Et lors de l'audience de lundi dernier, c'est très intéressant parce que le rapporteur public a demandé l'annulation des autorisations délivrées en 2008, 2009, 2010. Ah. Le Conseil d'État doit rendre sa décision dans les 15 jours.
Oui, mais même s'il annule tout, c'est trop tard.
Oui, Denis, ça je vous confirme. Les récoltes ont eu lieu. Bah oui. Et sachez aussi que ça n'empêchera rien puisque le ministère de l'Agriculture a donné une nouvelle autorisation pour un an de mise sur le marché pour la campagne de semis 2011.
Chouette, bah, c'est bien qu'il se parle un petit peu aussi avec le ministère de l'Écologie, ça fera pas de mal. Merci beaucoup, chère Nathalie Fontrelle.
À bientôt, Denis.
Soignez vos abeilles, vos ruches, voilà, et puis votre cheval. Au revoir, Nathalie.
Au revoir.
C'est donc la fin de cette émission avec Marion Lelay et Jean-Christophe Pinaza, et Fabrice Lègle réalisait cette émission. Merci à Anne Gouzon donc, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, ça va être une ronde des journalistes. On va mettre un certain nombre de sujets comme ça d'actualité sur la table avec différents journalistes qui viendront tout à fait librement en parler. Possibilité pour vous de podcaster cette émission durant une semaine, de la réécouter 4 semaines. Et puis nous, on se retrouve demain, ce sera dimanche 19h50. Après les petits bateaux de Noël Briam, et à suivre les liaisons heureuses de Colomb Schneck, Denis Chessou. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 15h.